Les orages maléfiques, chapitre 28. Ils entamèrent la dernière phase du séjour. Bientôt, les vacances ne seraient plus qu'un amalgame de souvenirs, rangés dans la grande malle du temps qui passe. Ils se dirigeaient vers un village situé dans les environs de Fatima, où ils prévoyaient de passer 2 jours chez des amis portugais qui jouissaient de leur retraite au pays après de nombreuses années de travail en région parisienne. Ils se connaissaient depuis plus de 35 ans. Une profonde amitié les liait. Ils savaient qu'il leur faudrait un solide coup de fourchette pour faire honneur à leur table. C'était à chaque visite le même rituel. Le paysage changeait. Le relief devenait un peu plus aride. L'eucalyptus prenait la place du chêne liège. Au fur et à mesure qu'ils approchaient de Fatima, ils croisaient des pèlerins en car ou à pied qui se dirigeaient vers le sanctuaire érigé en souvenir de l'apparition de la Vierge Marie à 3 jeunes bergers. Cet événement transforma l'économie et la vie religieuse du pays. Les hôtels et magasins se multiplièrent et l'endroit devint un haut lieu du catholicisme. Ils évitèrent la basilique et ses croyants pour se diriger vers le terminus de leur étape. L'accueil était toujours le même, avec la joie de se revoir. Leur dernier passage datait de près de 5 ans. Les hôtes n'avaient pas trop changé, mais on pouvait lire de la préoccupation dans le fond de leurs regards. Une forme de mélancolie les habitait. Après les échanges de banalités, ils saisirent ce qui minait leurs amis. La santé économique de la société de leur fils n'était pas florissante. Elle subissait de plein fouet la crise qui frappait le pays. Face à l'adversité, ils souffraient davantage que les principaux intéressés. Malgré leur présence et les tentatives de réconforter leurs amis, ils se rendirent à l'évidence, la sinistrose gagnait dangereusement du terrain. Ils discutèrent longuement avec le fils et son épouse. Ces derniers réagissaient avec plus de tonus et analysaient le problème avec lucidité et sang-froid. Ils reconnurent que l'issue fatale n'était pas très loin. Un trop grand nombre d'impayés mettait en péril l'existence de l'entreprise et les moyens de recours s'avéraient dérisoires. Cela ne les empêcha pas de passer un excellent moment devant un repas convivial où le bon vin coula à flot. Ils se quittèrent en se promettant de remettre ça le plus souvent possible. La chaleur s'invita sur la région. Le soleil généreux fit monter la température. Il leur restait 2 jours à flâner dans les rues de Lisbonne. Ils saluèrent et remercièrent chaleureusement leurs amis, puis prirent la route. 1 heure et demie plus tard, ils rentraient dans la capitale lusitanienne. La circulation était dense, mais ils connaissaient parfaitement le chemin de l'hôtel. Ils avaient choisi le même que la dernière fois. L'établissement présentait 2 avantages non négligeables. Il se situait en centre-ville et possédait un garage en sous-sol. L'inconvénient était le voisinage. En effet, la prostitution sévissait de plus belle dans les rues adjacentes. Des femmes originaires des anciennes colonies africaines faisaient commerce de leur corps au su et au vu de tout le monde. Après avoir garé la Clio et porté les bagages dans leur chambre, ils partirent bras dessous, déambuler dans la ville. Ils adoraient l'ambiance du centre historique. Ils s'agrippèrent au tramway, avalant les pentes étroites au-dessus de la cathédrale. Malgré les vitres ouvertes, mieux valait ne pas pencher la tête. L'engin avançait et rasait les murs de quelques petits centimètres. Le trajet ne manquait pas de pittoresque. Le spectacle des vieilles femmes toutes de noir vêtues, avec leurs paniers remplis de provisions, les ravissait. Contrairement à d'autres grandes villes européennes, Lisbonne avait su garder une âme. Les requins de l'immobilier ne s'étaient pas encore emparés de la cité. Les habitants vivaient ici, ce qui donnait un attrait supplémentaire à leur visite. À la mi-journée, ils baguenaudaient sur la place du commerce lorsqu'ils virent un groupe se réunir vers la statue équestre de José Ier, érigée au milieu de l'esplanade. Un homme se singularisait par sa stature et son costume clair. Il s'agissait de notre président de la Cour des comptes. Ils questionnèrent une hôtesse qui leur précisa les raisons de sa présence. Il assistait à un colloque sur l'harmonisation judiciaire. Tout un programme. Les participants posèrent pour la postérité avant de s'orienter à pas comptés vers un restaurant réputé. La soirée fut consacrée à écouter du fado dans le Bairro Alto. Ils choisirent un petit estaminet où deux chanteuses et un chanteur aveugle se relayaient pour décliner leur répertoire aux clients de passage. Ils apprécièrent ce moment agréable à écouter ces mélodies empreintes de saudade, la nostalgie propre à cette musique. Ils rejoignirent leur hôtel à pied sans se presser. La faune nocturne s'était déployée alentour. Ils continuèrent leur chemin sans s'attarder sur ce qui se passait. Ils avaient arpenté de long et en large les rues et ruelles, et ils aspiraient à une bonne nuit de repos. Leur espoir fut vite déçu. Des soupirs et des plaintes parvenaient jusqu'à eux. Le sommeil n'avait pas gagné la pièce voisine. Ils perçurent des gémissements, puis des cris. Le lit grinçait, et la jeune femme semblait au comble de l'excitation. Ils comprirent vite que la séance revêtait un caractère particulier, car ils identifièrent trois voix différentes. Deux hommes accompagnaient la fille, qui évoluait du plaisir à la douleur, selon les moments. Ils comprenaient cet usage d'une chambre d'hôtel, mais s'interrogeaient sur ce qu'ils entendaient. Était-ce subi ou consenti? Ils ne possédaient pas suffisamment la langue portugaise pour interpréter les cris provenant d'à côté. La séance dura une grande partie de la nuit. Le temps leur parut interminable. La jeune femme passait de l'orgasme aux plaintes et aux cris. Ils optèrent pour une professionnelle qui monnayait ses talents à deux pervers. Il ne pouvait en être autrement. Ils n'osaient pas alerter la réception, de crainte de voir la situation dégénérer, et, par lâcheté, ils préférèrent ne rien dire et attendre la fin des ébats. Ils descendirent dans la salle de restaurant pour le petit déjeuner, où ils espéraient que les protagonistes de leur nuit blanche viendraient se sustenter, après toute cette débauche d'énergie. Ils durent se retenir pour ne pas pouffer de rire lorsque le premier pensionnaire arriva. Un vieux monsieur, le cheveu blanc, muni d'une canne, se présenta. Ils doutèrent qu'il soit membre actif du trio qu'ils entendirent aussi longuement. Ils déchantèrent. Les oiseaux s'étaient sûrement envolés à l'issue du jeu. Ils ne verraient jamais les visages de ces adeptes du sadomasochisme. Ils passèrent une deuxième journée plus calme. Ils visitèrent la tour de Belém et se baladèrent dans le quartier avant de rejoindre l'aéroport en fin d'après-midi. La parenthèse se refermait. Tout ce qu'ils avaient mis au milieu leur procura de la joie et du plaisir. Ils oublièrent la maladie, l'accident du fils aîné et la fausse couche de Rindra. Demain serait différent. Ils en étaient conscients. Ils avaient rechargé les batteries afin d'affronter le quotidien et ses orages maléfiques.